Le journal Yves Decan, bonjour.
Bonjour. Une grève sans trêve pour Noël à la SNCF où les perturbations se poursuivent. Seule l'UNSA ferroviaire a souhaité marquer la pause, ce qu'une partie des militants n'accepte pas. Compter un TGV sur deux ce week-end, un trafic toujours réduit à la RATP, 8 lignes de métro fermées à Paris. Mais les voyageurs avaient pris leurs précautions, il n'y a pas eu de cohue dans les gares. Des inondations en Corse, dans la région d'Ajaccio, l'aéroport Napoléon Bonaparte a été évacué, fermé, les liaisons avec le continent perturbées. La tempête Fabien, annoncée demain en Corse, sera ce soir sur le sud-ouest où 15 départements sont en vigilance orange. Dans ce journal également, un rebondissement qui pourrait bousculer la campagne des municipales à Paris. Europe Écologie Les Verts et le candidat dissident En Marche, Cédric Villani, discutent d'une éventuelle alliance. La CPI, la Cour pénale internationale, qui voudrait enquêter sur des crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Israël refuse. Et puis une BD de Jean-Marc Rochette, un maître du genre, à déposer peut-être au pied du sapin. C'est le Conseil Culture de Jacqueline Pétroz.
France Inter.
Il n'y aura pas de trêve pour Noël. Après la CGT, Sud, Force Ouvrière et les cheminots de la CFDT, ceux de l'UNSA ont également, en partie et malgré l'appel de leur direction nationale, fait le choix de ne pas suspendre le mouvement. On va y revenir. Les réseaux SNCF et RATP restent très perturbés pour ce 17e jour de grève. Premier départ de vacances, compté notamment un TGV sur deux, c'est un peu mieux que les jours précédents. Mais toujours aussi problématique en région, avec 30% des TER et à Paris, où 8 lignes de métro sont encore fermées. Ce que tout un chacun semblait savoir à l'avance, puisque beaucoup de voyageurs avaient pris, semble-t-il, leurs précautions ou changé leurs projets. Cela n'a été ni la cohue, ni le chaos dans les gares. Illustration ce matin, Gare de Lyon à Paris, Caroline Félix.
Sur le parvis de la gare, les valises à roulettes se croisent. Tristan est arrivé de Lyon par le train de 10h08 avec femme, enfant et beaux-parents.
Il n'y avait pas grand monde dans le train. Train à moitié rempli. Visiblement, c'est le cas depuis deux semaines. Tous les trains sont marqués complets ou annulés. En fait, il y en a beaucoup qui circulent. Et tous les gens ont reporté leur voyage. Donc, il y a pas mal de place au final. C'est assez dingue. Ouais.
Bon, et donc maintenant, vous êtes prêt à affronter la grève parisienne ?
Là, ça va. Il y a plein de taxis. Il n'y a personne pour faire la queue pour le taxi. Donc, pour l'instant, ça démarre bien.
Mais tout n'est pas rose. Dans le hall, Odette regarde avec anxiété le tableau d'affichage. Elle ne sait pas si elle pourra partir fêter Noël avec son père à Toulon en EHPAD.
Je suis absolument pas contente. La SNCF m'a envoyé un SMS mardi pour changer mon billet, ce que j'ai fait. Et là, je m'aperçois que peut-être mon train va être supprimé. Je suis allée voir quelqu'un de la SNCF qui m'a dit effectivement il est annulé, donc on vous placera. Voilà, je ne sais pas si je vais partir ou pas.
Odette qui ne soutient pas du tout les grévistes, d'après elle, la réforme des retraites est nécessaire.
Le malheur des uns fait-il le bonheur des autres dans les transports? Peut-être. Les compagnies aériennes semblent en tout cas profiter de cette grève des trains sur les vols intérieurs. Jamais les réservations n'avaient été si hautes à cette époque de l'année, Philippe Lefebvre.
Oui, selon le groupe Odigeo, leader européen de la réservation de billets d'avion en ligne, qui a constaté une augmentation de 56% des réservations de billets pour la période de Noël, et ce par rapport à l'année dernière à la même période. Et le groupe confirme également que pour la période du jour de l'an, les réservations de billets d'avion, toutes compagnies confondues, ont également progressé de 38%. On constate que les clients n'ont d'ailleurs pas attendu la dernière minute pour réserver leur siège, puisque près de la moitié d'entre eux ont réservé dès les premiers jours de la grève, entre le 5 et le 8 décembre. Enfin, quand on observe attentivement les chiffres de l'entreprise, on s'aperçoit que ce sont les clients de Nantes, de Toulouse et de Marseille qui ont été les plus nombreux à préférer l'avion au train, avec une augmentation de 100% des réservations pour la seule ville de Nantes. Et dans une moindre mesure, on retrouve également les clients de Paris et de Bordeaux pour des réservations qui devraient d'ailleurs faire les affaires d'Air France, mais également et surtout des compagnies low cost qui ont ouvert de très nombreuses lignes en 2019.
Sur le front de la grève, seuls deux syndicats, CFDT et UNSA, penchaient pour une pause. Le temps des fêtes, Laurent Berger pour la CFDT appelant à se remobiliser très fortement début janvier, il n'a pas été suivi par les cheminots CFDT, au contraire de son collègue de l'UNSA. L'UNSA où la situation du coup s'est encore un peu plus compliquée, les cheminots n'étant en partie pas d'accord avec leur direction. Dans la moitié des régions SNCF, ils ont appelé à poursuivre le mouvement quand leur secrétaire général Didier Matisse préconisait la pause, avant de reprendre les négociations. Car pour l'instant, le compte n'y est pas. Il était ce matin l'invité de France Info.
il a fallu attendre quand même au 15e jour de grève que les négociations avec le gouvernement commencent. Et effectivement, il y a eu de réelles avancées par rapport à ces négociations-là, au niveau de la pénibilité et des dispositifs de compte épargne-temps, des améliorations significatives, notamment la pénibilité qui serait portée donc à 2 ans sur les 58 métiers qui sont avérés pénibles. On a également la création d'un plan d'épargne retraite collectif et l'ajout au niveau de la rémunération d'indemnités qui passeraient en prime et qui seraient donc liquidables pour la retraite. Au niveau des négociations, ça va reprendre à partir du 6 janvier avec le gouvernement, et donc au niveau des avancées qui sont obtenues, il y a encore pas mal de choses à gagner, notamment par rapport aux âges pivots et au décalage à 64 ans que nous n'acceptons pas.
Voilà le secrétaire général UNSA Ferroviaire ce matin. Parmi les grévistes du secteur public également, on en parle peu, des agents de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, qui se sont mobilisés contre la réforme, ce qui est assez rare. Ils mettent en avant un élément du débat rarement évoqué, cette règle d'or des 14% du PIB que ne doit pas dépasser, selon le gouvernement, l'enveloppe annuelle consacrée aux retraites, un principe qu'ils contestent dans un document intitulé « Des chiffres pour en débattre », Delphine Simon.
Chiffres à l'appui, les statisticiens de l'INSEE pointent le risque de fixer une règle d'or, un plafond à ne pas dépasser pour l'enveloppe allouée aux retraites. Chaque année, l'État ne pourra pas dépenser plus de 14% de la richesse produite en France. C'est à peu près le niveau actuel. Avec cette règle d'or, le gâteau des retraites ne bougera plus, mais le nombre de parts, lui, va continuer d'augmenter car les retraités seront plus nombreux. Pour Guy Violin, agent de l'INSEE, il est illusoire de compter sur la croissance pour compenser, comme le fait l'exécutif.
Cette limitation à 14% du PIB, c'est quelque chose qui génère un gâteau de dimension qui peut être confortable, entre guillemets, aujourd'hui, parce qu'on a un système qui le soutient. Sauf qu'on vise pour 2040 26% de retraités par rapport aux 20% présents. C'est quand même une grosse évolution. On ne peut pas planifier l'avenir en dehors d'une boule de cristal. Et c'est vraiment dangereux de dire on va limiter absolument sans créer de mécanisme qui permet de corriger s'il y a besoin l'insuffisance potentielle des 14%.
Adapter le gâteau des retraites à la démographie, on le fait depuis les années 60, dit-il. L'empêcher entraînera mécaniquement un décrochage du niveau des pensions. Aujourd'hui, ce niveau est comparable à celui des actifs, un cas assez unique en Europe.
L'analyse des retraites par les statisticiens de l'INSEE a retrouvé en ligne sur franceinter.fr. En politique, ce qui s'appelle un rebondissement pour les municipales à Paris, ou pourrait s'appeler un rebondissement si les tractations entre Europe Écologie Les Verts et le candidat dissident d'En Marche Cédric Villani aboutissent. Elles sont bien avancées, elles pourraient changer la donne et menacer la maire sortante Anne Hidalgo, Karine Bécard.
Aller chercher la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur son bilan écologique. C'était le pari de David Belliard, le candidat Europe Écologie Les Verts, mais après 6 mois de campagne, il n'y est manifestement toujours pas arrivé. Pas plus que le député Cédric Villani, qui promet pourtant d'énormes investissements en matière d'environnement. Voilà pourquoi ils pourraient tous les deux décider de s'allier, allier les 12% d'intention de vote de l'un aux 14% d'intention de vote de l'autre, pour espérer se relancer et qui sait repartir en tête de la campagne dès le début du mois de janvier. Parce que sinon, la bataille qui s'installe pourrait simplement opposer 2 femmes. Anne Hidalgo, la maire sortante, qui n'est pas encore officiellement en campagne, mais qui a chaleureusement félicité sa future concurrente Rachida Dati quand elle a été investie par son parti, Les Républicains. Tout simplement un bon moyen de faire oublier le candidat de la majorité, Benjamin Griveaux, qui n'apparaît toujours pas comme étant le seul capable de détrôner la maire de la capitale.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Y aura-t-il une enquête pour crimes de guerre dans les territoires palestiniens? La proposition faite hier par la procureure générale de la Cour pénale internationale ne fait pas l'unanimité en Israël, c'est le moins qu'on puisse dire, bien qu'elle ne vise personne en particulier. Pas question pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou que la Cour puisse enquêter en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Frédéric Mettezo, vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. Alors pour Israël, et c'est aussi ce que disent les États-Unis, il n'y a pas d'État palestinien, donc la CPI ne peut être officiellement saisie.
Voilà, exactement. Israël et les États-Unis contestent la compétence de la CPI en Palestine. Benjamin Netanyahou parle d'un jour sombre pour la vérité et la justice et d'une cour qui est un outil politique pour délégitimer Israël. Pour le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, Israël est injustement visé et pourtant, vous l'avez dit Yves, aucun protagoniste du conflit n'est nommément désigné, ce qui laisse la porte ouverte à des enquêtes contre les groupes terroristes Hamas et Djihad islamique. À Gaza. Ils ont tiré des roquettes contre Israël. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des civils palestiniens comme boucliers humains. Mais évidemment, Israël pourrait être visé par une enquête. En Cisjordanie et Jérusalem-Est, par exemple, l'occupation et la colonisation israélienne s'accompagnent de destruction de maisons, de restrictions de circulation et d'arrestations. Le mois dernier, l'armée israélienne a tué 9 civils à Gaza. Et surtout, une enquête préliminaire est déjà en cours après la guerre de l'été 2014. Elle avait fait 2251 morts palestiniens et 74 israéliens. Une intervention, ironie de l'histoire, pilotée par Benjamin Netanyahou et par le chef d'état-major de l'armée Benny Gantz, devenu aujourd'hui son plus grand rival politique. De son côté, l'autorité palestinienne se réjouit d'une éventuelle enquête qui pourrait gêner Israël.
Frédéric Mettezo à Jérusalem. La jeunesse et le sport au programme d'Emmanuel Macron ce samedi en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État inaugure une agora sportive. Il rencontrera ensuite des étudiants en médecine. Hier, il avait fêté Noël avec un peu d'avance auprès des soldats français basés à Abidjan. Et à propos des militaires, justement, en Afrique ou ailleurs, la ministre des Armées l'avait annoncé il y a 2 ans. Déjà, c'est désormais chose faite. Les drones utilisés par l'armée française vont être armés, utilisés essentiellement pour le renseignement. Au Sahel, ils vont pouvoir aussi larguer des bombes, Nathalie Hernandez.
Actuellement, l'armée française dispose de 3 drones Reaper à Niamey au Niger, sur sa base aérienne. Un de ces avions piloté à distance a été modifié le mois dernier pour être équipé de bombes ou de missiles. Une campagne de tir d'expérimentation a été réalisée au Mali, à Gao. Le drone a dû d'abord effectuer 2 tirs simples, l'appareil seul en vol a désigné un objectif, puis a largué sa bombe. La troisième opération de tir a, elle, été combinée avec un autre moyen, soit aérien, soit avec un commando à terre qui a déterminé la cible. Une fois passée cette étape, les pilotes pourront alors utiliser le drone en opération. D'ici à 2023, l'armée de l'air doit être équipée de 12 drones. Ils ne remplaceront ni les hommes, qui décideront toujours de l'action à mener, ni les avions de chasse, qui sont, eux, beaucoup plus rapides. Mais le Reaper armé sera un atout supplémentaire, explique un officier. L'armée pourra ainsi faire peser une menace 24 heures sur 24 sur les groupes terroristes.
En Australie, la région de Sydney toujours en proie aux incendies. Incendies hors de contrôle et qui se rapprochent de la métropole sur toute la côte orientale du pays, accablée par la chaleur. Des centaines de feux sont apparus au fil des jours et des semaines. Plus de 3 millions d'hectares sont partis en fumée ces 3 derniers mois, soit l'équivalent de la Belgique. Une dizaine de personnes sont mortes. À Sydney, asphyxiées par les fumées, les hôpitaux sont aujourd'hui débordés. En Australie, c'est l'été dans l'hémisphère nord. C'est demain le solstice d'hiver. Le jour à partir duquel les jours se remettent à rallonger jusqu'au jour le plus long, qui n'est pas le 6 juin, mais le 21 juin. En attendant, on a donc ce week-end dans l'hémisphère nord un maximum de nuits. En France, 18 départements sont en vigilance orange, dont 15 pour vents violents dans le sud-ouest principalement, où la tempête Fabien devrait souffler très fort la nuit prochaine. Elle atteindra la Corse demain matin. La Corse, où de fortes pluies la nuit dernière ont provoqué des inondations, beaucoup de routes sont coupées. Dans la région d'Ajaccio notamment, où la préfecture appelle à éviter au maximum les déplacements, beaucoup de personnes ont dû être évacuées, Lauriane Navarre.
Désormais, la préfecture de Corse du Sud est formelle. Évitez vos déplacements, ce n'est plus un conseil, c'est une obligation. Il ne faut pas accéder à Ajaccio cet après-midi, même si le soleil revient. L'eau, elle continue de monter. Quasiment tous les accès à la ville impériale sont bloqués. Plusieurs axes routiers sont fermés, notamment la 4 voies au niveau du rond-point d'Aspret, route bloquée également à Portich sur le pont du Prunel. Autour de l'aéroport, les champs se sont transformés en lacs. Conséquence, l'aéroport Napoléon Bonaparte a été fermé et évacué. Aucun avion ne décolle ou n'atterrit à Ajaccio. Les traversées maritimes de Corse et Galinéa sont également fortement perturbées. Certaines rotations ont été annulées, notamment celles entre Marseille-Bastia et Marseille-Ajaccio. Des perturbations et des annulations jusqu'au 23 décembre inclus. car la situation météo devrait s'aggraver selon les services de Météo France. À partir de cette nuit, en Haute-Corse, la vigilance vent violent passe en orange et demain matin, on attend des vents jusqu'à 160 km/h sur les caps exposés et sur les reliefs.
Voilà le bulletin météo complet dans un instant. À l'instant, la préfecture de Corse du Sud qui dit redouter une situation extrêmement critique et s'apprête à bloquer les accès à Ajaccio. Trois départements sont également en vigilance orange inondation sur le continent, en aval du Rhône. Rappelons que la tempête Fabien attendue en Corse sera ce soir sur le sud-ouest. De très fortes vagues sont attendues sur le littoral atlantique, notamment en Gironde. Et pendant ce temps, les conséquences de la tempête Elsa dans le massif central se font toujours sentir. 14 000 foyers sont toujours privés d'électricité en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, pas de chance pour Val d'Isère après le géant annulé la semaine dernière. C'est la descente féminine comptant pour la Coupe du Monde qui a dû être annulée ce matin en raison des fortes chutes de neige de la nuit. Même chose à Val Gardena en Italie pour la descente messieurs. Voilà, avant le point complet météo, une idée. Pour Noël, une idée à mettre au pied du sapin, c'est une BD de Jean-Marc Rochette, un maître en la matière, auteur du transpersonnage notamment. Il se voit consacrer ce qu'on appelle un artbook, un album qui reprend son travail de dessinateur depuis 1984, mettant en exergue la puissance de ses paysages et de ses passions, que sont la nature et la montagne tout particulièrement. Des planches originales, mais aussi des peintures qui donnent à voir l'homme derrière le dessinateur. C'est le conseil week-end de Jacqueline Pétrose.
Le transpersonnage est pour des générations un incontournable. Adapté au cinéma, il sera d'ailleurs bientôt une série sur Netflix. Dans Vertige, album grand format, des planches en noir et blanc jusqu'aux aquarelles de montagne où chaque détail est vrai, le coup de crayon de Jean-Marc Rochette est sublimé. Au cours d'un long entretien avec Rebecca Manzoni, le dessinateur se livre dans cet album qu'il a découvert une fois terminé.
C'est comme une consécration parce que c'est à peu près toute mon œuvre, c'est-à-dire j'ai commencé à être professionnel véritablement en 76, donc j'avais 20 ans, j'en ai 63, ça fait 43 ans. 43 ans ramassés comme ça, quoi. C'est très impressionnant. Et ça m'a appris des choses sur moi, d'ailleurs, curieusement. C'est vrai que tout est un petit peu apparu avec Elle Froide, hein, voilà, avec mon autobiographie sur la montagne, puis le loup, et c'est mis noir sur blanc, voilà, quoi.
À travers Vertige, le discours de ce montagnard sur la nature se fait évidence.
C'est des rogatons de nature qu'on a maintenant. Ça devient peau de chagrin. Par exemple, en face sud de la Meije, il y a un glacier qu'on appelle le glacier carré, qui était emblématique de cette montagne, hein. C'était comme un drapeau, un linceul. Et de ma vie, j'ai 63 ans, j'avais jamais vu la Meije sans glacier carré, quoi. Ça fait un peu bizarre, quoi. À ce rythme-là, des fois, je dis à des copains de la vallée, ça va être le Hogar ici.
Avec cette artbook, la puissance de l'art de Jean-Marc Rochette, de la BD à la peinture, est d'une cohérence parfaite.
Voilà, Vertige avec un S, consacré donc à Jean-Marc Rochette aux éditions Daniel Maguen, à retrouver d'ailleurs en exposition à la Galerie Maguen à Paris jusqu'au 11 janvier. Si on préfère offrir un classique dans une très belle édition, la Pléiade propose 15 romans de Georges Sand en 2 volumes, La Mare au Diable, La Petite Fadette et autres, l'occasion de redécouvrir la Dame de Nohant, un génie libre et audacieux. Et puis pour se divertir bien sûr et faire un long voyage à travers la galaxie au cinéma, le dernier volet de Star Wars, 42 ans après la sortie du premier film, la saga des Skywalker prend fin. L'ascension de Skywalker, projetée partout dans le monde ce week-end, l'adieu de toute une génération au personnage, la princesse Leia, Dark Vador, Luke Skywalker, etc. À chacun sa légende, bien sûr. Et voilà pour les conseils culture de ce week-end. Le temps.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poule en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
18 départements sont en vigilance orange, dont 3 pour plusieurs paramètres. La Corse pour inondation, plus la Haute-Corse pour le vent fort à partir de la fin de la nuit prochaine, avec des rafales parfois supérieures à 150 km/h dans la région de Bastia. La Charente maritime pour les crues et le vent tempétueux à partir de ce soir. La Gironde pour les fortes rafales et le risque de submersion marine. On trouve ensuite les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard en orange cru, et en tout 13 départements de la Nouvelle Aquitaine et de l'Occitanie pour le vent soufflant en rafales tempétueuses jusqu'à 140 sur les côtes, 120 dans les terres entre ce soir et la nuit prochaine au passage de la tempête Fabien. La météo va d'ailleurs commencer à s'agiter sensiblement cet après-midi sur la façade atlantique, avec des rafales à 100 km/h sur les côtes et l'arrivée de pluies soutenues. Sur le reste du pays, temps plus calme, variablement ensoleillé, avec un risque d'ondées près de la Manche et le maintien d'un temps sec en Méditerranée, en dehors de la Corse, qui verra arriver de nouvelles pluies en soirée.